RCF.
Bonjour chers amis auditeurs de RCF, fidèles d'Agora Défense pour notre émission mensuelle consacrée à la vie militaire à Bourges-en-Chêne. Aujourd'hui, nous accueillons dans nos studios Michel Delagarde, grand spécialiste des États-Unis dans la Première Guerre mondiale et fin connaisseur de cette présence des forces américaines dans notre département du Cher. D'ailleurs, une prochaine émission aura pour thème justement les États-Unis dans le Cher entre 1917 et 1919. Mais pour cette émission d'aujourd'hui, je souhaitais aborder avec Michel un épisode moins connu de cette Première Guerre mondiale, ou plus exactement, moins traité par les historiens. Le sujet, les prêtres et religieux dans l'horreur de la Première Guerre mondiale. Tout d'abord, mon cher Michel, bonjour.
Bonjour Bernard.
Ma première question, les hommes de Dieu étaient-ils mobilisables pour défendre la patrie en 1914 ?
Oui, bien sûr. Je voudrais d'abord, pour poser le problème et rappeler quelque chose que personne ou peu de gens savent, pendant la Première Guerre mondiale, 23 076 prêtres sont passés sous les drapeaux. 2 949 sont morts. 9 271 religieux sont passés sous les drapeaux. 1 571 sont morts. Il fut un temps ancien où, effectivement, les prêtres et religieux n'étaient pas mobilisables. Les choses changent avec la vague d'anticléricalisme qui sévit en France à partir de 1880 et qui a débuté par ce que l'on appelle les expulsions. En 1880, le 29 mars très exactement, des décrets signés par Charles de Freycinet et Jules Ferry expulsent de France les jésuites et le second impose aux congrégations non autorisées de se mettre en règle dans un délai de 3 mois sous peine de dissolution. L'application de ces décrets a conduit à des expulsions en 1880. Le 30 juin, ce sont les jésuites de Bourges qui sont expulsés. Au 1er juillet, ce sont 9 barnabites d'Aubigny Village qui sont expulsés. 18 franciscains le 15 novembre à Bourges, rue d'Ain-le-Roi. À Issoudun, les pères du Sacré-Cœur en novembre. Pour procéder à ces expulsions, qui avaient lieu tôt le matin, entre 6h30 ou 7h, on faisait appel à l'armée ou à la gendarmerie. À Bourges, c'est le 95e RI qui eut cette charge, 100 personnels furent mobilisés. À la gendarmerie d'Aubigny, 4 brigades expulsèrent les 9 barnabites. Et à Issoudun, c'est le 68e de ligne qui fut de service pour expulser nos pères du Sacré-Cœur. 1889, la loi dite des curés Sacaudeau. Elle supprime l'exemption des prêtres et religieux de service militaire. À noter que les enseignants qui étaient également dispensés font partie de la même loi et doivent désormais faire leur service militaire. À pied, à cheval, en voiture, à bicyclette, les aumôniers vont être sur le terrain. Aumôniers, il y en avait quelques-uns, mais aussi officiers, sous-officiers, hommes du rang. Je citerai volontiers une phrase du général Gouraud. En 1915, il affirmait qu'avec un bon aumônier et un bon colonel, un régiment passait partout. Le nombre d'aumôniers militaires était extrêmement restreint en période de paix. On s'est tout de suite aperçu qu'il n'y en avait pas assez pour faire tout le travail qu'il y avait, vu le nombre de mobilisés et malheureusement le nombre de tués dès le départ. C'est pourquoi Albert Demain, le 11 août 1914, à la suite d'une entrevue avec le président de la République, a obtenu que des prêtres et religieux non mobilisables puissent rejoindre les armées.
Ah, très bien.
Il y en aura 400. Où seront-ils ?
Justement, je pose ma question. Les prêtres religieux mobilisés sont-ils envoyés en première ligne ou restent-ils à l'état-major, Michel ?
Oh, il ne reste pas à l'état-major. Ah. Il y en a quelques-uns qui sont restés à l'état-major. Ils étaient très mal vus de leurs confrères.
C'est ce que je pense.
J'ai lu quelques courriers sur le sujet qui étaient assez saignants. Non. D'une part, un bon nombre d'entre eux n'étaient pas aumôniers. Ils étaient, comme je l'ai dit, comme on verra tout à l'heure, officiers, sous-officiers, hommes du rang. Et puis les aumôniers eux-mêmes, eh bien, ils étaient sur le front, ils accompagnaient les troupes, ils essayaient de récupérer les blessés, de les ramener à l'arrière, sous la mitraille. Et c'est comme ça qu'ils se sont très souvent fait tuer. Les prêtres planqués, c'est un mythe qu'a voulu encore en 1916 et 1917 certains journaux essayer de démontrer. En réalité, il n'en est rien. C'est pour ça d'ailleurs que plus tard, après la guerre, un énorme ouvrage a été consacré à tous ces prêtres qui s'appelle « La preuve par le sang ».
Vous êtes à l'écoute de RCF, Le Berry se raconte, notre invité Michel Delagarde qui nous parle des prêtres et religieux dans l'horreur de la Première Guerre mondiale. Michel, revenons à notre Berry, justement. Dans notre Berry, avons-nous des pères Brottiers ou des religieux qui, par leur courage, leur action, ont marqué la mémoire des paroissiens de notre Berry à l'issue de cette Première Guerre mondiale ?
Dans le diocèse de Bourges, nous n'avons pas de père Brottier qui est connu... plus pour ce qu'il a fait après la guerre que pendant la guerre. Il y a eu 275 prêtres mobilisés et 19 sont morts pour la France. 18, excusez-moi. 38 élèves du grand séminaire, dont 8 sont morts pour la France. À noter qu'ils ont eu 6 légions d'honneur. Ça ne se recueille pas tellement à l'époque dans les états-majors. Et 56 croix de guerre. Pour donner une idée de la ponction qui a été effectuée sur les paroisses, au 1er août 1914, il y avait 716 prêtres diocésains.
Je tiens à te remercier, Michel, pour la précision dans ces informations concernant les prêtres. Alors, une dernière question, Michel. Comme tu le sais, notre département du Cher, depuis bien longtemps, avait été remarqué par son incrédulité ancienne et l'anticléricalisme de cette fin du 19e et début 20e siècle. La souffrance du quotidien des tranchées a-t-elle permis l'apaisement et le respect des relations entre laïcs et religieux ?
Je voulais parler aussi de quelques survivants de la guerre de notre diocèse.
Oui.
Le premier d'entre eux, qui n'était pas à l'époque dans notre diocèse, mais qui reviendra comme archevêque de Bourges, c'est Mgr Fillon, né à Vineuil, dans l'Indre. Mes amis aviateurs m'en voudraient si je ne parlais pas de Léon Bourjade, pilote à Avord, lieutenant aux 32 victoires, officier de la Légion d'honneur, prêtre missionnaire du Sacré-Cœur d'Issoudun, lui est mort en Papouasie en 1924. Et une figure assez extraordinaire, l'abbé Joseph Rimbaud, blessé, amputé, qui reviendra... et qui sera basé, il sera ce qu'on appelle à l'époque le missionnaire diocésain, puisqu'il ne pourra plus avoir de paroisse. Et il a cette particularité d'avoir raconté sa guerre en vers, 57 pages en A5, en alexandrin. Et pour donner une idée qui va commencer à te répondre à ta question, je vais citer quelques-uns de ses vers. C'est bien le premier prêtre en ces 3 ans de guerre que nous voyons du front redescendre blessé. Je croyais d'eux bel et bien embusqués comme dactylographe au loin à l'arrière. Et le chef lui répond, « Sale embusqué toi-même, hurla le médecin. Pour la peine à ton tour, tu monteras en ligne. En attendant ce soir, mon gars, je te consigne. Cela t'apprendra bien à faire le malin. »
Excellent, excellent.
Alors, un dernier survivant avant de passer à l'après-guerre, mais il est célèbre, c'est François-Michel Ange Pavillard, aumônier de la 16e DI, chevalier de la Légion d'honneur, qui était né à Saint-Germain-du-Puy, qui a sa rue à Saint-Amand-Montrond, et qui, après la guerre, a été l'homme qui a, je dirais, fait le plus d'inauguration de monuments aux morts, puisque c'était lui qui était le président de l'association des prêtres anciens combattants. Il a inauguré presque tous les monuments aux morts du diocèse. Bien, j'en viens à ta question. Après-guerre, nous avons la chambre Bleu Horizon.
Bien sûr.
Donc, la rupture avec Rome s'est terminée. On rétablit les relations diplomatiques. On ne parle plus d'expulsion, etc. Tout s'arrange. Mais en 1924, le cartel des gauches arrive au pouvoir. Il cherche à remettre en route la situation d'avant-guerre. Et alors là, les choses se compliquent sérieusement. Le père Doncœur écrit à Herriot en lui disant « Nous ne partirons pas ». Il fut cofondateur de la DRAC, Droit des religieux anciens combattants, dont Jacques Péricard, du 95e RI, il faut bien le coller quelque part, sera un des membres très influents. Et là, derrière la DRAC, derrière celui qu'on a appelé le Capucin Botté, les Français qui se souviennent de leurs aumôniers, de leurs prêtres dans les tranchées, qui ont partagé leur vie, qui les ont aidés dans les moments difficiles, les familles qu'ils ont aidées, à qui ils ont envoyé des nouvelles, à qui ils ont essayé d'expliquer ce qui avait pu se passer, se sont opposés fermement à Herriot. Et Herriot a été obligé d'abandonner ses visées anticléricales pour un bon moment.
Merci Michel. Alors Michel, merci pour cet éclairage sur la participation des prêtres et religieux à cette Première Guerre mondiale, plus particulièrement dans notre Berry, et des répercussions liées à cet engagement. Sachant aussi que nous n'avons qu'effleuré ce sujet. Chers auditeurs de RCF, merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à la vie militaire et dans le Cher et le Berry.